Midi 53 minutes, on va revenir sur le décès de Bernard Landry. Écoutez, peu importe de quel côté de la chambre on se trouvait, peu importe quels sont nos intérêts politiques, hein, nos agendas personnels, il n'y a personne qui va nous dire aujourd'hui que Bernard Landry n'a pas été un grand parmi les grands. Puis c'est comme ça que, je pense, on devrait aller dans l'encensement le plus total. Pourquoi je vous dis ça? Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Puis après une entrevue, avec ce gars-là, il s'en allait, puis là, je me disais, bon, il s'est passé quelque chose. C'était un événement. C'était un homme d'une grande culture, mais avec cette humilité nécessaire pour aussi être accepté puis adopté du peuple. Bernard Landry, c'était ça. Pas toutes les fois que je lui ai parlé, c'était ça. Puis à un moment donné, je l'ai raconté au début de l'émission, j'ai le mandat de faire un documentaire sur la ceinture fléchée. Et en googlant, je me rends compte que Bernard Landry portait souvent la ceinture fléchée. Et d'ailleurs, dans les images que j'ai vues qui ont circulé depuis hier, on le voit à l'extérieur avec sa ceinture fléchée. Je l'ai appelé. Et gentiment, il m'a donné une entrevue, puis il m'a amené sa ceinture fléchée. Puis il m'a raconté tout l'attachement qu'il avait pour cette pièce de notre patrimoine, pièce de vêtement de notre patrimoine, qui est la ceinture fléchée dite de l'Assomption. Je ne sais pas le regard qu'il porte, Stéphane Viau, observateur politique, sur le départ de cet homme politique. Allô, Stéphane?
Salut, Robert.
Quel genre de regard portes-tu sur l'homme?
Écoute, je partage à peu près toutes les opinions qui ont été émises depuis 24 heures. Je veux dire, c'est sûr que... Ben d'abord, juste faire une précision, contrairement à toi, moi, je l'ai rencontré une seule fois. Je ne l'ai pas vraiment connu personnellement. J'ai eu la chance de dîner avec lui. Il était premier ministre à ce moment-là, dans le cadre d'un dîner-conférence à la Chambre de commerce. Puis j'avais le privilège d'être à la table d'honneur, parce que j'étais membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce à cette époque-là. Puis j'ai eu la chance de discuter avec lui. Puis effectivement, quelqu'un très accessible. Ça m'avait même surpris. Tu sais, c'est un peu cliché, on dit souvent ça de tout le monde, mais il était quand même premier ministre à ce moment-là. Là. C'était pas un ancien politicien, tu sais, et il avait pris le temps de discuter avec moi, répondre à mes questions, etc., mais c'est la seule fois que je l'ai vu. Pour ce qui est du reste, écoute, ses réalisations, effectivement, quand on s'y arrête, et malheureusement, on le fait souvent juste au décès de quelqu'un, en règle générale, on découvre que son bilan, il est quand même impressionnant, en particulier au plan économique. Fait que là-dessus, je me joins à tout ça. En même temps, ça m'a fait penser, quand j'ai vu la nouvelle sortir hier, qu'il y a une génération qui est en train de nous quitter, qui en fait, qui est la génération qui a bâti le 20e siècle du Québec, qui ont connu une époque formidable dans l'histoire politique, qui était une époque où on bâtissait, hein, ça a parti dans les années 60 avec la Révolution tranquille. Je parle évidemment de Bernard Landry, mais également Jacques Parizeau, Camille Lorrain, etc., des gens qui nous ont quittés ces dernières années. Et après la Révolution tranquille, ça s'est poursuivi des années 70-80, les méga-projets hydroélectriques, etc. Ils ont connu des années que, des fois, je m'ennuie, j'étais tout petit à cette époque-là, mais tu sais, aujourd'hui, on assiste plus à de la gouvernance. Tu sais, on gère des finances, on administre des programmes, mais on n'est plus dans les grands projets de société comme cette époque-là. Et ça, c'est la première réflexion qui m'est venue à l'esprit après son décès. Il y a une grande page qui se tourne, qui a été un moment illustre de notre histoire au Québec. Et souhaitons que d'autres générations futures auront la chance de revivre des périodes comme ça dans l'avenir. Fait que voilà si on veut, mais évidemment, je conclurai là-dessus, bien entendu, en transmettant toutes mes condoléances à ses proches, sa famille, ses amis, membres du Parti québécois, souverainistes et tous ceux qui ont apprécié l'homme.
Stéphane, tu voulais aborder brièvement la réforme du scrutin qui sera une priorité pour notre députée Sonia Lebel.
Oui, tout à fait, et qui est ministre responsable. Écoute, Robert, moi, ce qui m'inquiétait un petit peu, c'est que Sonia Lebel a dit qu'elle avait l'intention de procéder rapidement dans ce dossier-là, puis je pense que c'est une erreur. Dans un premier temps, un mode de scrutin, c'est pas juste une mécanique là, qui nous permet d'aller voter, etc. Il y a toute une histoire derrière ça. Il y a une culture électorale aussi derrière tout ça. Puis qu'on le veuille ou non, chaque système a ses avantages, oui, mais aussi ses inconvénients. Bien entendu, dans le cas de notre système actuel, l'inconvénient principal, c'est la distorsion. C'est-à-dire qu'on se retrouve, par exemple, le gouvernement de la CAQ a fait quelque 38 % des voix, mais se retrouve avec 60 % des sièges. On a vu à deux reprises dans l'histoire des gouvernements majoritaires se former en ayant moins eu de vote que le parti de l'opposition officielle, dont le plus récent cas, c'est 1998 avec le gouvernement de Lucien Bouchard, où il avait obtenu moins de votes que le parti de Jean Charest, mais avait quand même formé un gouvernement majoritaire. Bon, soit, ça c'est la principale distorsion. C'est souvent les tierces parties qui vont pousser pour cette réforme-là parce qu'ils savent qu'il y aurait plus de députés à l'Assemblée nationale, mais en même temps, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais en ayant une proportionnelle, ça va permettre à d'autres cités d'éclore. » Mais ce qu'on constate au cours de l'histoire, c'est que souvent quand un tierce parti est avec de bonnes idées, qui atteint une masse critique dans la population, bien souvent les principaux partis vont la récupérer puis ils vont en faire sien dans leur programme. Par exemple, les partis verts n'ont jamais formé de gouvernement, mais Dieu sait qu'on en parle énormément des enjeux environnementaux depuis plusieurs années. On peut penser que le Bloc POT, qui n'a même jamais espéré faire élire un seul député, il a quand même eu gain de cause, le POT est maintenant légalisé. Tout le discours qu'on tient depuis une quinzaine d'années sur l'enjeu de la dette, les générations futures, c'est un héritage de Mario Dumont et de l'Action démocratique du Québec, qui à l'époque était un député tout seul à l'Assemblée nationale. Donc les idées se retrouvent pareilles dans les programmes des grands partis lorsqu'ils atteignent une masse critique au sein de la population. L'autre chose, c'est qu'à l'inverse, c'est que si on instaure une proportionnelle, c'est-à-dire qu'on redistribue des sièges en fonction des pourcentages obtenus, mais là, les inconvénients, c'est qu'on se retrouve après ça avec des gouvernements de coalition, qui veut dire qu'ils vont édulcorer leur position, les diminuer parce qu'ils n'auront pas le choix. Ils vont devoir négocier avec les partis d'opposition pour faire avancer leur dossier. Puis souvent, un gouvernement minoritaire nous force à gérer à très court terme parce que on a toujours les deux yeux sur la prochaine date des élections. Élection. Le court terme, c'est pas nécessairement bon pour les générations futures, etc. Donc, j'arrive à la conclusion suivante pour terminer, Robert, sur ce dossier-là. Je me joins à Philippe Couillard qui a dit que ça prendrait un référendum avant de changer le mode de scrutin. Ça nous appartient à nous, électeurs. Ça n'appartient pas à 125 députés. Là. Alors, qu'il y ait une consultation publique quelconque et qu'on prenne notre temps.
Merci beaucoup.
Je t'en prie. Salut bien.
À bientôt. Bye-bye. Il est 13h01, celui que vous avez entendu, c'est Stéphane Viau. Breaking news, le communiqué vient tout juste de sortir. L'identification, j'ai ça ici, ça nous vient de la police de Trois-Rivières. Je vous le lis textuellement parce que beaucoup de personnes se posaient la question. L'identification du deuxième corps retrouvé dans le véhicule incendié à Trois-Rivières le 10 octobre dernier est maintenant connue. Il s'agit de Jean-Christophe Gilbert, 24 ans, originaire de la Montérégie. À noter que cet individu n'avait pas été rapporté disparu auprès des services policiers. L'enquête se poursuit. C'est un communiqué qui nous vient de Claude Denis, agent d'information à la Sûreté du Québec. On fouille ça. Marc-André est en studio actuellement en train de préparer son bulletin de nouvelles. Oui. On devrait en jaser dans 3 minutes. Merci d'écouter le 106.9.